Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
L'incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolais est non seulement inacceptable, mais aussi humiliant pour la RDC et nécessite une mesure de réciprocité. Ainsi pense le député national Jackson Aoussé, qui a déposé une question d'actualité au bureau afin d'écouter le ministre de la Défense nationale, qui est d'ailleurs déjà invité. Lutte contre la corruption en RDC, il se tient des états généraux sur la question depuis hier mardi ici à Kinshasa. Il faut évaluer cette lutte à travers son cadre juridique, relever les défis et dépister les solutions. À l'occasion, d'après le Premier ministre Samalou Kondé, l'apport des magistrats est très attendu. Notre invité dans cette édition du journal est le professeur Luzolo Bambi, ancien ministre de la Justice et ancien conseiller spécial de l'ex-président Joseph Kabila. Il participe aux états généraux de la lutte contre la corruption. Il nous parlera de l'application des textes et de la réactualisation du code pénal congolais. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Le ministre de la Défense nationale est invité à l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur l'incursion lundi de l'armée rwandaise à Nyiragongo dans le Nord Kivu. Le député national Jackson Aoussé a déposé hier mardi une question d'actualité pour avoir plus d'informations du gouvernement sur cette présence momentanée de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Pour l'élu du Rumu, ce qui s'est passé est non seulement inacceptable mais aussi humiliant pour la RDC et nécessite une mesure de réciprocité. Jackson Aoussé est au micro de Michel Kifindangoy.
Ce qui s'est passé hier à Nyiragongo est inacceptable. Le 18 hier lundi, très tôt le matin, il y a des personnes lourdement armées qui ont pris l'initiative d'envahir une partie de Nyiragongo, dans le Nord Kivu. Les images, les témoignages sont humiliants. C'est pour cette raison que j'ai initié une question d'actualité, conformément à l'article 180-182 de notre règlement, pour que les ministres de la Défense puissent venir donner des explications à la population à travers la représentation nationale. Pour répondre à la question de savoir qui ont envahi le village dans les territoires de Nyiragongo. Ils sont venus d'où? Ils sont venus faire quoi? Et le bilan c'est quoi? Quelles sont les mesures prises désormais pour que des initiatives comme ça ne puissent pas se répéter sur le territoire congolais? Moi je pense que nous sommes quand même un pays souverain et les autres pays doivent nous respecter. Et pour nous respecter, nous devons nous prendre à charge. Il y a un principe de la réciprocité dans les relations internationales. À moi, je pense effectivement ça les mobiles. Nous attendons des explications pertinentes de la part du ministre de la Défense.
Alors sur place au Nord Kivu, un calme précaire s'observe dans le groupement Burumba en territoire de Nyiragongo après cette incursion de l'armée rwandaise dans cette entité. Les sources du mécanisme conjoint de vérification élargie de la CIRGL, la Goma, affirme avoir déjà été saisie de cette affaire. Elle annonce les débuts des enquêtes. Bernard Nyangi.
Au moins 6 de 7 villages qui se vidaient lundi de leurs habitants à la suite de cette incursion sont déjà repeuplés, affirment les sources de la société civile du territoire de Nyiragongo. Cependant, selon elle, le village Nakabundi, situé à la frontière, par où ces éléments des forces de défense rwandaises sont entrés, reste encore vidé de la quasi-majorité de ses habitants. Elles ajoutent qu'une psychose y règne encore. Ses habitants voudraient voir la RDC déployer une position permanente des militaires congolais pour assurer la sécurité de la frontière dans cette partie où de telles incursions des soldats rwandais sur le sol congolais sont presque régulières, indique la société civile locale. Contacter certains responsables du mécanisme conjoint de vérification élargie confirment avoir déjà été saisis par une lettre officielle du gouvernement congolais sur cette affaire et que l'enquête a été ouverte sans plus. Rappelons que l'armée rwandaise a fait cette incursion avant de regagner le Rwanda après avoir libéré deux de leurs éléments qui venaient d'être arrêtés par l'armée congolaise. À l'issue d'un accrochage avec un renfort des FARDC, une arme des RDF a pu être récupérée, a dit le porte-parole de Sokola 2. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Et puis arrivé hier soir à Kinshasa, du secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix a été accueilli à l'aéroport d'Ndjili par la chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta. C'est confié à Radio Kapi, Jean-Pierre Lacroix dit venir réitérer l'engagement des Nations Unies à travailler avec les autorités et le peuple congolais pour relever les défis sécuritaires auxquels est confrontée la République démocratique du Congo dans sa partie est. Jean-Pierre Lacroix est au micro d'Askin Zigbia Tayoro.
C'est un déplacement qui a pour objectif de réitérer notre pleine solidarité avec la République démocratique du Congo, le peuple congolais, réaffirmer notre engagement à travailler avec les autorités pour l'aider à surmonter les défis qui se présentent et qui ressortent du mandat de la MONUSCO, notamment les défis sécuritaires à l'Est. Je me réjouis aussi de voir nos collègues de la MONUSCO, la SARSG, Mme Keïta et toute l'équipe. Ça me fait plaisir et j'aurai l'occasion de leur dire combien nous apprécions leur travail. Et c'est aussi une occasion pour nous, parce que je voyage aussi avec le général Diop, qui est le nouveau chef du bureau des affaires militaires au secrétariat des Nations Unies, et puis d'autres collègues. C'est une occasion pour nous aussi de retourner sur le terrain et de rencontrer nos collègues qui y sont.
Pendant ces temps au sud Kivu, dans les territoires de Kalehe, le PAM, la FAO et l'UNICEF s'emploient à renforcer les moyens des subsistance des communautés et des ménages vulnérables. Cela à travers leur projet conjoint pour renforcer la résilience des petits exploitants. C'est dans ce cadre que l'ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies, Sarah Zeid, de Jordanie, a visité ce mardi le centre de santé de Boulenga et un centre d'alphabétisation à Minova. C'est là qu'est implanté ce projet financé à hauteur de 50 millions d'euros par la Banque allemande de développement KfW pour une durée initiale de 5 ans, soit de 2018 à 2023. Reportage de Cynthia Bachizi Nabizana qui revient de Minova.
Jambo! Jambo! Jina lango Sara! And we are here to help you.
Tuko hapa tubasaidie isi inawezekana juu ya kusaidia jamaa yenu kuanzia kubebe na kuanzia kunyipeke sante yenu.
Minova, groupement de Bouzi, centre de santé de Boulenga. Le grand défi ici est la malnutrition qui touche plus particulièrement les enfants de moins de 5 ans. C'est ainsi que le PAM fournit des intrants alimentaires à ces enfants vulnérables. Difficile de comprendre la malnutrition dans cette région où abondent les terres fertiles. Mais ce sont les conflits armés qui ont perturbé les familles, d'après le médecin-chef de la zone de santé de Minova, Dr Laville.
Vous savez, c'est une zone de santé qui a connu des conflits. Il y a beaucoup de déplacés qui ont abandonné leurs champs et qui se sont maintenant intensés au niveau des grands centres.
En outre, des cours d'alphabétisation sont également organisés pour les agriculteurs. Au-delà de cet appui d'urgence, Francis Béré, chef du PAM au Sud Kivu, explique que la pérennisation des actions du PAM dépendra surtout du changement des mentalités au sein de la population. Ce projet est mis en œuvre dans le Nord Kivu également. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Et puis cette information qui vient de nous parvenir, Martin Fayoulou appelle à la constitution d'un grand bloc patriotique contre ce qu'il qualifie de dictature fasciste qui se met en place dans la négation et le mépris total de la souveraineté du peuple congolais. D'après Martin Fayoulou Madidi, ce bloc aura pour mission principale de mener des actions sur terrain afin de faire échec à ce macabre projet de fraude électorale. Ceci est contenu dans une déclaration rendue publique hier, 19 octobre, au lendemain de l'entérinement des membres de la CENI par l'Assemblée nationale. Autre nouvelle, diagnostiquer l'état des lieux de la corruption et se projeter pour un meilleur avenir, c'est ce qu'explique la tenue des états généraux de la lutte contre la corruption en RDC depuis hier mardi ici à Kinshasa. Le premier ministre qui a procédé à l'ouverture de ses assises invite les magistrats et les inspecteurs de la police judiciaire, des parquets, de bien faire leur travail de répression contre ce fléau. Reportage, Jeff Ngoy.
Il faut évaluer la lutte contre la corruption à travers son cadre juridique, relever les défis et trouver des pistes de solutions. Selon le Premier ministre Samalou Kondé, l'apport des magistrats est très attendu pour améliorer le climat des affaires.
C'est ici l'occasion d'attirer l'attention singulièrement des magistrats et agents de police judiciaire qui doivent pleinement jouer leur rôle. La République n'accordera aucun pardon à ceux d'entre eux qui auront facilité ou couvert tout acte de corruption ou de détournement des deniers publics.
Pour Rose Mutombo, ministre d'État en charge de la justice, malgré de nombreux instruments juridiques, le mal est toujours là.
En plus des instruments juridiques internationaux et régionaux de lutte contre la corruption auxquels la RDC a adhéré, plusieurs institutions ont été mises en place pour lutter contre ce fléau. Malgré cela, ce phénomène reste à ce jour présent.
Qu'attendre de ces assises? Lucien Toulou, team gouvernance du PNUD, qui appuie financièrement et techniquement ce forum, explique.
Examiner le cadre juridique et institutionnel qui permet de lutter contre la corruption et dégager un certain nombre de pistes de réformes qui permettraient à la lutte contre la corruption d'être beaucoup plus efficace.
La question des réformes et harmonisation des textes, mutualisation des efforts des institutions sont au menu des discussions.
Et puis le nouveau comité de gestion de l'Office congolais de contrôle se félicite des résultats atteints après 100 jours passés à la tête de cette entreprise étatique. Le directeur général de l'OCC s'est ainsi exprimé hier mardi à Kinshasa au cours d'une réunion de travail entre le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa d'une part, le conseil d'administration, le comité de gestion et les membres de la délégation syndicale de l'OCC d'autre part. Il était justement question d'évaluer les 100 jours du nouveau comité de gestion. Parmi les réalisations, le directeur général de l'OCC cite notamment la paie régulière des agents et l'assainissement des finances. Gabi Loubiba-Mampouya est au micro d'Enoch Matondo.
La politique, c'est la gestion de la société, c'est être au service des autres, tel que le prône le président de la République. Nous essayons de faire cela notre. Après 100 jours, nous sommes dit, quand on vous donne la chose publique à gérer, vous n'êtes que deux instruments. Donc vous êtes redevable. Nous avons pris notre gestion sur deux piliers, la redevabilité et le pouvoir de performance. On est redevable par rapport aux travailleurs, redevable par rapport à l'État, et redevable par rapport à la population, à toutes les parties prenantes et partenaires. À ces jours, en ce qui concerne la redevabilité, nous avons ramené la paye des agents et les agents sont payés régulièrement chaque le 25 du mois. Et nous avons aussi assaini les finances. C'est en assainissant les finances que nous arrivons à tous ces résultats. Qu'on ne paye plus les retraités, les décomptes des retraités. Nous avons pris ça en compte et à ce jour, nous avons pu payer en 3 mois de 2007 à 2015.
En plus bref, la route nationale numéro 1 qui relie la province du Kwilu et celle du Kasaï en passant par la ville de Kikwit se trouve actuellement dans un état de dégradation très avancé entre Massima Nimba, chef-lieu du territoire portant le même nom, et le village Yama au Kwilu. Il ne reste que 2 ou 3 pluies pour qu'elle soit complètement coupée. L'administrateur de ce territoire qui alerte les autorités indique que cette situation rend très difficile le passage des gros véhicules et a déjà occasionné plusieurs accidents. Jean Bosco Mukubidi sollicite l'intervention urgente du gouvernement central afin d'éviter les pires. Solidarité africaine pour une Afrique en faveur des personnes atteintes de l'albinisme est le thème autour duquel tournera le premier colloque panafricain sur l'albinisme que le panel chargé d'accompagner le mandat de la République démocratique du Congo à l'Union africaine organise du 19 à ce 20 octobre avec la participation de la MONUSCO. Il s'agira durant ces 2 jours de faire un état des lieux sur la situation des personnes atteintes d'albinisme et de prendre des mesures urgentes pour combattre toutes les formes de discrimination auxquelles font objet cette catégorie de personnes. Le coup d'envoi de ces colloques a été donné par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Jocelyn Poyi signe ce reportage.
La situation des personnes atteintes d'albinisme est l'un des problèmes qui préoccupe les mandats de la RDC à l'Union africaine. Dans son allocution, Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, a insisté sur les discriminations auxquelles fait face cette catégorie de la population, basée notamment sur le langage et les comportements de ceux qui critiquent les personnes atteintes d'albinisme.
Le langage que nous utilisons lorsque nous parlons d'albinisme, il y a aussi un travail à faire dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos cercles pour bannir les mots et expressions dégradantes, discriminatoires. Apprenons à nos enfants, à nos frères et sœurs, à nos collègues, les mots humains, les mots dignes, respectueux, qui nous unissent.
Le professeur Alphonse Ntumba Luaba, coordonnateur du panel, chargé d'accompagner la mandature de la RDC à l'Union africaine, a, quant à lui, rassuré que l'Afrique restera au cœur des préoccupations du chef de l'État.
Le chef de l'État lui-même s'est engagé au-delà de la présidence en exercice de l'Union africaine qui va prendre fin bientôt. Mais l'Afrique reste dans la tête, au cœur des préoccupations du chef de l'État. Que dis-je, la tête dans le cœur du chef de l'État.
Signalons que cette première journée a connu la participation de la République du Congo, du Kenya, de la MONUSCO et du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme.
Tout justement en rapport avec ces colloques, les difficultés que rencontrent les personnes vivant avec l'albinisme sont de divers types et plus accentuées actuellement avec le réchauffement climatique. Outre les attitudes et comportements stéréotypés de la société à leur égard, ces personnes entendent de véritables solutions aux problèmes liés à la vue et à la santé de leur peau. Billy Valutumba nous en parle dans ses reportages réalisés en marge du colloque ouvert ce mardi à Kinshasa par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez.
Les albinos ont des sérieux problèmes de vue. À travers ce problème, ça handicape déjà les études pour les enfants. Et il y a le cancer.
Yann Mambo est un professionnel de l'audiovisuel avec en plus une expérience dans la peinture et la sculpture, savoir qu'il acquiert au prix des gros sacrifices.
Moi, j'ai eu des sérieux problèmes de vue au point que je me suis découragé de prendre des notes à l'école. Donc j'ai fait toutes mes études sans prendre des notes. Et ça, je ne le souhaiterais pas à un autre albinos.
Et pour que cela n'arrive pas aux jeunes albinos,
il faudrait à la limite trouver des points d'approvisionnement, des produits de protection de manière régulière pour les personnes vivant avec albinisme, offrir l'occasion des dépistages réguliers pour les cancers de la peau afin de prévenir et surtout créer la prolifération des hôpitaux spécialisés pour pouvoir diagnostiquer les problèmes de vue pour permettre à ces enfants dès le bas âge à pouvoir s'appliquer à l'école, étudier.
Ce plaidoyer de tous les albinos nécessite un appui et particulièrement
la ministre des personnes vivant avec handicap et personnes vulnérables. C'est elle qui est censée être l'ambassadrice de toute cette communauté de personnes. Le fait que le président de la République lui-même se soit mis au devant de la scène pour en parler lui implique encore une plus grande responsabilité.
Et c'est à ce niveau que le chef de l'État, dans ce monde des circonstances, a invité les participants à ce colloque à sortir des véritables recommandations comme solution aux problèmes que rencontrent toutes les personnes vivant avec albinisme.
Actualité internationale.
Le 20 octobre 2011, Muammar al-Kadhafi était tué avec plusieurs de ses compagnons dans des circonstances toujours pas été clarifiées. 10 ans, jour pour jour après, aujourd'hui donc, ses sympathisants ont dénoncé dans un communiqué publié hier les crimes de guerre commis par l'OTAN. Le comité chargé de la commémoration de la mort du colonel appelle à organiser des rassemblements symboliques de 5 minutes dans toutes les villes en Libye.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est le professeur Luzolo Bambi, ancien ministre de la Justice et ancien conseiller spécial de l'ex-président Joseph Kabila. Il participe aux états généraux de la lutte contre la corruption et il nous parle de l'application des textes et la réactualisation du code pénal congolais. Il s'entretient ici avec Jeff Ngoy. Suivez.
Professeur Luzolo Bambi, bonjour.
Bonjour.
À l'occasion de l'ouverture de ces états généraux de la lutte contre la corruption en RDC, il faut y réfléchir pour trouver une thérapeutique de choc. Quelle peut être cette thérapeutique selon vous?
C'est la répression. Couplée avec la prévention, certes, mais il faut que la répression joue le rôle de prévention. C'est la prévention par la dissuasion. Donc il faut que la sanction véritable et certaine soit le fer de lance de cette politique nouvelle pour qu'à travers elle, que ceux qui sont dans les chemins de la corruption y renonce par le feu de la sanction. Voilà, je suis bref.
Ça demande de renforcer le système judiciaire qui existe déjà. Nous avons l'IGF qui fait son travail, nous avons la Cour des comptes. Qu'est-ce qu'il faut encore en dehors de toutes ces agences de répression ?
Tout doit chuter sur la sanction. La sanction n'est pas que pénale, elle est administrative aussi. Elle est disciplinaire aussi. Sanction. Pas de mots. Sanction, donc la répression et la prévention. Mais je continue à insister que la prévention dont il s'agit ici, ce n'est pas la sensibilisation par des leçons, c'est la prévention par la sanction. Ça signifie qu'il faut que la sanction dissuade les nouveaux délinquants. Donc c'est la prévention par la dissuasion. Donc toutes les politiques publiques qui ont été mises en place et conçues sont bonnes, à la condition, c'est le point de chute, que tout converge vers la sanction.
Est-ce que la sanction n'existe pas dans ces pays?
Pas assez.
Nous assistons à des procès, des détournements des deniers publics, des gens qui sont arrêtés.
Oui, c'est à encourager. Mais il faut justement atteindre la vitesse de croisière.
Mais on se demande où partent tous les fonds qui sont recouvrés. Les fonds détournés, on déclare
tous
des millions de dollars.
Tous les fonds détournés sont censés revenir à la caisse de l'État. Et c'est le sens de notre contribution à ces assises. Faire en sorte qu'au-delà de la sanction pénale, que des restitutions puissent être organisées. Parce que l'objectif final, ce n'est pas simplement de sanctionner pour sanctionner, mais c'est pour permettre au peuple congolais de récupérer l'argent détourné, l'argent volé. Parce que au finish, il faut que le peuple mange.
Le cadre légal qui réglemente cette répression en RDC, il y a plusieurs instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC pour lutter contre cette corruption. Il y a aussi des textes locaux, des textes nationaux. Est-ce qu'il y a au moins une harmonie entre ces textes avec les textes internationaux.
Tout en encourageant l'esprit d'harmonisation de ces textes que vous considérez comme étant beaucoup, plusieurs, je relève que avant de concevoir les nouveaux textes, il faut évaluer, optimiser les anciens textes. Le code pénal congolais, qui est un code de 1940, a été pratiqué, exécuté véritablement à combien de pourcents? Vous savez qu'avec seul le code pénal, si on l'applique véritablement, on peut résorber une bonne partie de la corruption, le détournement des deniers publics.
Qu'est-ce qui n'est pas appliqué à travers ces codes?
Les sanctions que le code pénal prévoit. Il y a combien de procès? Il y a combien de détenus dans nos prisons? Est-ce que l'argent de l'État qui fuit correspond au nombre insignifiant des détenus que nous avons dans nos prisons? Voilà une preuve du défaut d'application du code pénal de 1940. 1940, ça fait 60 ans. Nous l'avons appliqué combien de fois?
Il faut donc le réactualiser.
Oui, mais avant de réactualiser, appliquons ce qu'il y a. Nous l'avons appliqué combien de fois? Deux fois? Trois fois? Il y a combien de détenus? Vous en connaissez le nombre? Les cas où ce code a été appliqué? C'est facile à compter. Alors que ça fait 60 ans. Dis donc, regardons-nous en face. Finalement, au bout du compte, le problème, c'est nous-mêmes. Arrêtons de trop chanter. Agissons. Agissons. J'espère que, cher Jeff, c'est la dernière fois que vous reviendrez pour me poser des questions sur la corruption. Je souhaite que vous reveniez pour commenter le nombre de personnes qui ont été arrêtées, le nombre de cas où la loi a été appliquée. Ce sera plus intéressant.
Merci, professeur.
Merci.
Voilà, complètement terminé ce journal mis en onde par Jean-Claude Nsiala, coordonné par Élisée Chikota, sous la supervision de Pélé Kipela Mondo. Merci de nous avoir suivis.